Bonsoir à toutes et à tous. Les grands fleurons de l'industrie française au tapis. Airbus accuse au premier semestre une perte de près de 2 milliards d'euros. Air France perd plus de 4 milliards. Renault et Total perdent 7 milliards chacun. Et l'économie s'effondre comme jamais. Une chute du PIB de près de 14% au deuxième trimestre. Tétanisés par le virus et le chômage, les Français font la grève du porte-monnaie avec une épargne de précaution qui grimpe à 75 milliards d'euros. Alors ce confinement est-il en train de casser les derniers points forts de l'industrie française ? Comment relancer l'économie du pays et redonner confiance aux chefs d'entreprise et aux consommateurs ? Et puis la France est-elle menacée de déclassement, pour reprendre l'expression de Bruno Le Maire, et c'était une expression qu'il avait employée avant l'épidémie. C'est le sujet de cette émission de Ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Industrie, croissance, la chute ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe de Sertine. Vous dirigez l'Institut de haute finance. Vous êtes professeur à l'IEE de Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Et vous avez dirigé le rapport du comité 21 intitulé « La grande transformation, 10 propositions concrètes pour changer le système ». Jean-Marc Daniel, vous êtes économiste et professeur émérite à l'ESCP. Vous êtes l'auteur des 3 controverses de la pensée économique. C'est aux éditions Odile Jacob. Stéphanie Villers, vous êtes économiste spécialiste de la zone euro, auteur de La crise économique 2020 vers un nouveau monde, point d'interrogation, c'est aux éditions Economica. Et enfin, Pascal Hébel, économiste, et vous dirigez le pôle consommation et entreprise du Crédoc. Philippe de Sertine, on va regarder ensemble les performances des différents pays européens au deuxième trimestre. Alors voilà, et ce dont on s'aperçoit, c'est que plus on va au sud, plus ça chute. Hein. L'Allemagne, c'est moins 10, l'Italie, enfin moins 12, nous, on est à moins 14. L'Espagne, moins 18. Est-ce que ça va aggraver le fossé entre l'Europe du Nord, qui est industrielle et qui a des emplois, et l'Europe du Sud, qui est ravagée et désormais inactive ?
Oui, d'ailleurs, on peut rajouter le Portugal, hein, qui est juste après l'Espagne, on va dire, du point de vue de la récession la plus forte. C'est sûr que du point de vue de l'Europe du Sud, France comprise, on a eu, on va dire, vraiment la triple peine. Hein, c'est-à-dire que nous avons eu une épidémie particulièrement mortifère chez nous, avec beaucoup de victimes, beaucoup plus, par exemple, en Espagne ou en Italie ou en France qu'en Allemagne. Donc ça, c'est déjà évidemment quelque chose qui nous a conduit à avoir un confinement beaucoup plus dur, donc des conséquences économiques extrêmement lourdes. Ensuite, on se retrouve avec une situation dans laquelle, effectivement, nous allons subir des conséquences probablement plus fortes que le Nord, notamment du point de vue du tourisme. Tous les pays du Sud sont ceux aussi qui dépendent beaucoup du tourisme. Et quand le tourisme, évidemment, ne reprend pas, c'est l'économie qui ne va pas bien, c'est la balance des paiements, c'est-à-dire notre commerce extérieur qui va de moins en moins bien. Et puis, ce sont...
Parce que le tourisme, c'est de l'argent qui vient de l'extérieur. Exactement. C'est la richesse qu'on importe dans notre pays, hein, bien sûr.
Tous les étrangers qui sont en France pendant les vacances, c'est des gens qui dépensent de la richesse créée en dehors
ailleurs,
de la France.
Voilà.
Et lorsque c'est en dehors de l'Europe, eh bien, ça améliore la balance des paiements de l'Europe entière. Donc là, les pays du Sud, et on voit évidemment par exemple l'Espagne, qui a des risques de reconfinement fort de zones touristiques importantes, fait encore plus la grise mine en ce moment en disant on a besoin absolument de ce tourisme qui a une part très lourde du PIB, hein, plus de 10%, près de 13% du PIB.
Qui amène de la richesse, qui apporte de la richesse.
Exactement. Et qui, évidemment, signifie que dans ce cas-là, on ne l'a pas et ça va manquer la fin de l'année. Et on se demande quand est-ce que ça va reprendre. Et puis, évidemment, la troisième lame, c'est que ces pays du Sud sont aussi ceux qui avaient les finances publiques les plus dégradées, qui avaient les plus fortes dettes, les plus gros déficits et qui se retrouvent, évidemment, avec une situation encore plus dangereuse en termes de comparaison avec les pays du Nord. On l'a bien senti, d'ailleurs, dans les négociations très, très dures autour du plan de relance européen. Formidable initiative, mais néanmoins dans laquelle on a bien senti dans les négociations qu'il y avait ceux qui demandaient et ceux qui accordaient.
Alors Jean-Marc Daniel, on sait qu'en France, on a pas mal de choses qui fonctionnent mal ou pas très bien, mais on avait une chose qui marchait très bien, c'était nos 40 entreprises du CAC 40 qui étaient même un exemple. On disait ça en France, on a des grands groupes, des grandes multinationales qui sont tellement performantes d'ailleurs qu'elles en oublient qu'elles sont françaises. Est-ce que là, on ne s'est pas rendu compte que ces géants en fait étaient friables ? C'est incroyable de voir qu'Airbus a perdu près de 2 milliards. Renault, Total, ils affichent une perte de près de 7 milliards. Est-ce que nos géants du CAC 40 ont quand même été ébranlés et on en vient à douter de leur solidité?
Ah, ils ont été manifestement ébranlés. Il faut bien voir qu'on est face à une crise qui n'est pas une crise naturelle, qui n'est pas une crise habituelle dans le système capitaliste. Dans l'économie traditionnelle, vous avez une croissance de long terme, qu'on appelle la croissance potentielle, et puis des cycles économiques, ça monte, ça descend. En 2017, on avait une très forte croissance, et puis on annonçait pour 2020 une croissance aux alentours de 1%. Et on a vu les résultats qu'on a vus, c'est-à-dire que la différence entre ce qui avait été annoncé et ce qui a été réalisé, c'est véritablement la décision qui a été prise de confiner l'économie. Il faut voir que pendant 55 jours, on a empêché ces entreprises de produire. Et donc à partir de ce moment-là, forcément, ces entreprises sont ébranlées, elles sont secouées. Je ne reviendrai pas sur le choix qui a été fait, parce que dans la liste, ce qui est intéressant, c'est que le pays qui s'en tire le mieux, c'est la Suède. La Suède a une récession, mais de 5%. D'après Bruxelles, c'est-à-dire que le pays qui a refusé le confinement et qui a des résultats sanitaires qui sont à peu près comparables aux autres pays, lui a évité le drame économique. Il a quand même une récession, il a quand même des problèmes, mais il a évité ce drame économique qui a été effectivement l'interdiction faite à une partie de la population de travailler, donc aux entreprises, de gagner de l'argent.
Donc ce confinement, on le paye très cher économiquement, c'est ce que vous voulez dire.
On le paye très cher. Alors, il est derrière nous, c'est-à-dire il ne faut pas considérer que ces chiffres catastrophiques vont se reproduire, heureusement, dans les mois qui viennent.
On a même, d'ailleurs, est-ce qu'on peut penser que c'est au vu de ces chiffres que les gouvernants disent plus jamais un confinement généralisé comme on l'a fait.
Je pense, oui. Et je pense qu'ils sont assez maladroits en laissant, dans certains pays, planer le doute sur le fait qu'ils pourraient en partie, malgré tout, reconfiner. Je crois que la population et le monde de l'économie a besoin d'un discours clair en disant, écoutez, on était dans l'urgence, on a adopté une mesure qui est contestable, mais désormais, on ne peut plus se permettre ce genre de situation. Et donc, par rapport à ça, je crois qu'il y a trois éléments qu'il faut mettre en avant. Un, il faut que ces entreprises reconstituent leurs fonds propres. L'appareil de production, lui, n'a pas été détruit. Quand le président de la République disait « nous sommes en guerre », dans une guerre, on est bombardé, et donc les usines sont rasées. Là, les usines, elles sont toujours là. Ouais. Et donc, ce qui a été détruit, c'est les fonds propres, les capacités financières des entreprises. Et donc, si on doit faire de la relance, c'est vers les capacités financières des entreprises. L'idée de supprimer une partie des impôts de production me paraît conforme à la situation. Le deuxième élément, c'est, puisqu'on parle de guerre, à la sortie de la guerre, Maurice Thorez disait « il faut produire d'abord, revendiquer ensuite ».
Maurice Thorez, qui était le leader de la...
Le leader du Parti communiste. Ce n'était pas la solde de Goldman Sachs. Ce n'était pas une créature des néolibéraux. Et donc, je pense qu'il faut produire d'abord. Et donc, ces entreprises ne pourront s'en sortir que si très rapidement, non seulement elles se remettent à produire, mais elles augmentent leur productivité. C'est-à-dire, on va probablement vers des accords où on va demander aux salariés d'augmenter leur durée du temps de travail, ou de baisser leur salaire, en fait. Et puis, je crois qu'il y a un troisième élément qui...
Alors, pour aller dans votre sens, on vient de l'apprendre, les pilotes de British Airways, les navigants même de British Airways, ont accepté de baisser leur salaire pour aider leur entreprise.
Et donc, il y a beaucoup d'endroits où, effectivement, on va proposer aux salariés, soit vous travaillez un peu plus pour rattraper ces 55 jours en France qui ont été perdus, soit, effectivement, vous faites un effort pour nous permettre de reconstituer nos fonds propres. Et le troisième élément, il faut voir quand même que tout le monde n'est pas rentré dans la même situation. Et dans l'automobile, par exemple, Peugeot et Renault ne s'en tire pas de la même façon. Et donc, un des grands enjeux...
Peugeot est légèrement bénéficiaire, alors que Renault affiche une perte de plus de 7 milliards.
Et donc, je crois qu'un des grands enjeux, là aussi, dans l'apport que va... le soutien que doit apporter le gouvernement maintenant à cette reprise, il va falloir faire, je dirais, un peu un tri entre ceux qui, de toute façon, ont été pénalisés, ont été en difficulté, et ceux qui, effectivement...
Ceux qui sont arrivés fatigués, et ceux qui sont arrivés en pleine forme, qui ont mieux amorti.
Voilà, qui sont prêts à repartir de façon... plus durable.
Stéphanie Villers, il n'empêche, le gouvernement ne cesse de nous le dire, d'ailleurs, les difficultés sont devant nous. Quand Airbus dit, mais on va supprimer 15 000 emplois, dont 5 000 en France, est-ce qu'il faut craindre une rentrée sociale très compliquée, avec pourquoi pas des manifestations, un peu comme on l'avait vu en Grèce en 2011, quand les mauvaises nouvelles s'accumulent, à la fin, il y a des explosions sociales et des grèves, etc.
Oui, il faut pas se leurrer, même si on va pouvoir, l'économie globalement au niveau macro va pouvoir repartir, il y a quand même deux types d'entreprises qui vont souffrir, c'est-à-dire les entreprises qui avant la crise étaient déjà en difficulté. On a vu par exemple celles qui n'ont pas su prendre le tournant du numérique, André, toutes ces marques qui ont dû déposer le bilan et attendre des repreneurs, donc elles vont pas pouvoir passer cette crise-là, malgré les aides de l'État. Et puis il y a le deuxième
typiquement
type.
Pour reprendre ce que disait Jean-Marc Daniels, ce sont les entreprises qui ne sont arrivées sans faire de e-commerce. Et donc là, les 55 jours de confinement leur ont été fatales.
Bah absolument. Alors déjà, ils étaient en retard, même lorsque le marché était ouvert, on pouvait consommer normalement. Ils étaient déjà en retard par rapport à leurs concurrents parce qu'ils s'étaient pas mis en ordre de marche par rapport aux nouveaux besoins des consommateurs. Ensuite, on a le deuxième type d'entreprise, c'est ceux en fait, qui ont des perspectives qui sont durablement dégradées. Parce que pourquoi la crise sanitaire quand même va remettre en cause une partie de la mondialisation de la production? On a bien vu tous les déséquilibres que ça pouvait entraîner de produire 100% des masques en Chine, par exemple. Donc on va essayer de relocaliser. Ensuite, il y a tous ces dégâts écologiques qui sont emparés. L'opinion public s'empare de ce type de thématique.
On l'a vu avec Air France,
hein. Et donc Air France et Airbus sont obligés de revoir leur modèle. Airbus est en train d'annoncer qu'il va faire un avion
à hydrogène à l'horizon
2035. Mais c'est incontournable. Donc de là, il va y avoir de nouvelles restructurations. Donc des faillites plus des restructurations d'entreprises. Effectivement, il va y avoir une rentrée. Alors c'est peut-être pas en septembre parce que beaucoup d'entreprises ont pu bénéficier des prêts garantis par l'État. Donc ça leur donne une bouffée d'oxygène artificiel, ça repousse le problème de bien un semestre. Bon, c'est peut-être, ça sera peut-être les mauvaises nouvelles en septembre ou peut-être en décembre, mais il y aura quand même ces deux types d'entreprises qui font face à de graves difficultés.
Alors Pascal Hébel, face à l'avalanche de ces mauvaises nouvelles sur le plan sanitaire et économique, je suis désolé, mais alors comment se porte le consommateur? Comment est-ce qu'il réagit? C'est pas anodin parce que je parle sous votre contrôle, Stéphanie Villers. La consommation, c'est quoi? C'est les deux tiers de l'économie.
Bien sûr.
Les deux tiers de l'économie
oui,
en France. Ouais. Hein. Donc c'est vous qui avez la clé de la reprise. Hein.
Donc alors en effet, le consommateur sur le bonheur, par exemple, il est plus heureux aujourd'hui qu'il y a un an. Ça a un peu progressé.
Ah bon, et comment
alors,
ça s'explique?
Alors surtout les hommes. Ça a beaucoup augmenté chez les hommes et chez les femmes, c'est moins. Mais globalement, la confiance des ménages, elle n'a pas beaucoup chuté. On a 94 sur un train de 100, donc là, elle est remontée. Donc les consommateurs, certains, ont été dans des situations qui sont bonnes, puisqu'en effet, ils ont été avec leur famille, ils en ont profité. Il y a un effet de cocooning, où certains étaient bien chez eux. Et le télétravail convient à un grand nombre de salariés. Donc il y a vraiment... ce sentiment...
Un quart des salariés étaient en télétravail.
Voilà, du privé. Un quart des salariés. Encore aujourd'hui, il y a 20% de la population qui a encore au moins un jour de télétravail par semaine. Donc c'est énorme. Mais c'est vrai que les salariés, 4 sur 10, pensent qu'ils vont avoir des difficultés économiques. Donc en effet, ils se préparent à la suite. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ne ressentent pas de baisse de pouvoir d'achat. Ça a à peine baissé d'1,5%, alors que vous avez vu que le PIB, ça baisse de 40. Donc
14.
On sent bien que... Oui, ça a baissé de 40 au tout début, et puis la 14. Ouais. La consommation a baissé de 11% quand même, hein, au global, sur le deuxième trimestre, hein, contrairement aux chiffres qu'on nous donne, qui sont que le mois de juin, et on compare au mois de février, alors que... En réalité, l'indicateur, c'est que le mois de juin qui est donné, ça a baissé, ça a augmenté simplement de 1% par rapport au mois de juin de l'année dernière, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas un rebond de la consommation énorme. Mais en effet, les Français ont eu envie de consommer quand ils sont sortis du confinement. Et certains secteurs industriels, notamment des biens durables, l'automobile, mais aussi les meubles, en fait, les gens qui n'avaient pas acheté, en sortie de crise, alors avec les primes aussi qui ont permis sur l'automobile, de se rééquiper sur des secteurs qui, jusqu'à présent, étaient plutôt structurellement en baisse.
Mais ce sont donc des achats de rattrapage, c'est parce qu'on n'a pas pu acheter.
Oui.
Et d'effet d'aubaine face à la prime, puisque
effectivement... Il y a un effet d'aubaine là-dessus, mais sur l'équipement du foyer, c'est qu'on s'équipe parce qu'on vit plus chez soi, en fait. Hein,
ah,
et
oui.
Donc, les piscines aussi qui ont explosé. Les gens ont préféré, et sur les vacances, ils sont beaucoup plus dans des locations de maison que dans des hôtels. Donc, il y a en effet des aménagements qui se font. Donc il y a quand même un ressenti qui est aujourd'hui, même s'il s'y prépare, n'est pas catastrophique.
Eh bien, tant mieux. Crise passagère ou bien crise de longue durée, quand on observe les résultats historiquement mauvais des grands groupes français publiés cette semaine, on réalise à quel point cette crise sanitaire a affecté notre économie. Voyez ce sujet de Pierre Barbin et Nicolas Baudry-Dasson.
Deux mois de confinement avec une économie à l'arrêt. Et forcément, les premiers bilans sont lourds. Chez Renault, la production a tourné au ralenti. Le groupe enregistre aujourd'hui une perte nette de 7,3 milliards d'euros au premier semestre. Un coup de massue pour les salariés.
On savait qu'on allait perdre parce qu'on a eu beaucoup de sites de fermés, mais on ne pensait pas que ce serait aussi catastrophique que ça.
L'autre principale victime de cette crise, c'est l'aéronautique. Sur les 6 premiers mois, le constructeur Airbus perd 1,920 milliards d'euros. Les chiffres sont mauvais et les conséquences pourraient être désastreuses.
Depuis le premier jour, je suis inquiet pour l'économie française. De la crise sanitaire, nous sommes passés à une crise économique et le risque de crise sociale est encore extrêmement fort. Donc je suis très inquiet sur l'aspect social. Nous avons un choc de protection à amener sur les entreprises pour à la fois que l'emploi, que les gens ne soient pas licenciés et pour que les entreprises aient des bilans qui leur permettent de penser à la relance et au futur.
Car de nombreux emplois sont menacés, comme chez ce fabricant de pièces automobiles. 292 au total. Ces croix ont été installées face au danger d'un plan social. Les salariés redoutent les mois à venir.
C'est pour ça que je travaille beaucoup, parce que bon, j'ai quand même mes enfants qui sont aux études. Et il faut payer les études, les appartements, il faut payer tout. Donc voilà, c'est un peu... On se demande la vie, comment ça va continuer après.
Pour éviter les licenciements, le gouvernement signe des accords avec les entreprises, comme Safran. L'équipementier aéronautique met en place l'activité partielle de longue durée pour maintenir l'emploi. Certains salariés verront leur temps de travail baisser de 40%, mais ils toucheront 90% de leur salaire net, grâce à des aides de l'État.
Moi, je suis convaincu que c'est très important de garder les femmes et les hommes, de garder des compétences dans les entreprises, de pouvoir aménager le temps de travail avec une prise en charge par l'État pour la partie des heures chômées, mais de garder, d'éviter des licenciements, de garder des talents, d'être prêt à rebondir.
Une mesure prise avec l'accord des syndicats.
Soyons réalistes, aujourd'hui, on a une baisse d'activité sur certains sites de 35%. Pour pallier à cette baisse d'activité, l'APLD est la bonne solution.
Cette aide pourrait-elle s'étendre à d'autres entreprises, comme Air France ? La compagnie perd 4,2 milliards d'euros sur les 6 premiers mois. En cause, une baisse du trafic de 62% par rapport à l'an dernier. Le groupe veut donc supprimer 7500 emplois, dont 1000 au sein de sa filiale Hop. L'annonce provoque la colère des salariés. Ils espèrent un geste de l'État.
Nous, aujourd'hui, on revendique la mise en place du chômage partiel de longue durée. On revendique une commission d'enquête sur le maillage du territoire entre l'avion et le train. Il doit y avoir des convergences et il faut absolument que le politique prenne ce dossier au sérieux. Autrement, il va avoir un ravage sur l'emploi.
Dans cette crise, le secteur de l'énergie n'est pas épargné. Total a enregistré une baisse de 96% de son bénéfice ajusté au deuxième trimestre. Le groupe a dû reporter tous ses investissements.
Il s'agit pour l'entreprise de tenir compte du fait qu'un certain nombre de gisements sur lesquels elle avait des droits, comme les, par exemple, on a surtout parlé des sables bitumineux de la Tabasca, ils sont des sables qui sont très chers à produire, eh bien ces sables n'étaient plus productibles dans l'état actuel des choses, ils n'étaient plus rentables, donc il fallait en tenir compte et réduire donc la richesse de Total des investissements qui avaient déjà été prévus pour mettre en place, pour mettre en production ces sables.
Pour soutenir les secteurs les plus touchés par la crise, l'État a déjà versé 45 milliards d'euros d'aide.
Alors, question téléspectateurs, les entreprises du CAC 40 sont-elles toutes aussi affectées ? Est-ce qu'il y en a qui s'en sortent mieux ? Il y a des secteurs qui ont mieux survécu ? Stéphanie Villers.
On voit le luxe a souffert, mais c'est en passe à partir du moment où les marchés vont pouvoir internationaux vont pouvoir réouvrir. On voit Hermès, LVMH, ils ont eu vraiment des résultats dégradés, ça c'est une évidence, mais leur perspective reste quand même honorable.
Il faut dire, tout le monde a été obligé de s'arrêter pendant 55 jours, hein, quel que soit votre secteur d'activité.
Les activités non essentielles.
Non essentielles, et même les activités EDF, par exemple, qui n'est plus dans le CAC 40, mais EDF qui a continué à vivre, parce qu'on a mis beaucoup en avant les soignants qui étaient en première ligne. Mais enfin, heureusement qu'il y avait des gens comme les agents d'EDF qui étaient là pour faire en sorte qu'il y ait de l'électricité qui arrive dans les hôpitaux, qui arrive ici et tout. Bon, EDF aussi a fait des pertes, parce qu'au bout d'EDF, il y a tout un tas d'activités économiques qui n'était plus là. Et donc EDF... Mais en revanche, on voit bien que si vous regardez les projections de l'INSEE qui annoncent les contractions dont on a parlé, l'INSEE annonce que la reprise peut être de 19% au troisième trimestre. C'est-à-dire à partir du moment où les gens se remettent à travailler, la Banque de France, qui est la plus pessimiste, mais qui a l'avantage d'être vraiment en contact des entreprises, anticipe quand même un rebond au troisième trimestre de 14%. Donc dès que vous remettez les gens au travail, immédiatement, la situation s'améliore. Ceux qui vont être les plus touchés dans cette affaire, ce sont ceux, comme on le disait, qui étaient dans des situations, qui étaient déjà des situations dégradées.
Mais alors non.
Sur le pétrole, écoutez, le prix du pétrole baissait avant la crise sanitaire, et donc les schistes bitumineux, ils sont rattrapables à $60 le baril. On était entre 20 et 30 dollars le baril. On remontait à 40 dollars. Donc, total, Covid ou pas Covid, de toute façon, on aurait dû se poser la question de l'avenir de ces champs de schiste bitumineux.
Mais justement, Philippe de Sertine, quand on voit Air France, qui est chroniquement déficitaire, qui perd systématiquement de l'argent sur son réseau intérieur, dire est-ce qu'il ne profite pas un petit peu de la crise aussi pour dire, bah tiens, là, il arrête, il vient d'annoncer qu'il arrêtait plusieurs lignes, Paris-Aurillac, Paris, Paris-Castres, Paris-Lourdes. C'était justement des choses, c'était des foyers potentiels, des foyers de perte. Est-ce que cette crise ne permet, enfin, ne va pas accélérer certaines restructurations ?
En ce qui concerne toutes les petites lignes régionales, on est là probablement dans une restructuration qui était une restructuration envisagée depuis longtemps. Pas forcément uniquement par la direction Air France, parce qu'effectivement, ce que l'on disait, l'aéronautique, le voyage aérien est considéré comme un mode de fonctionnement qui est trop polluant par rapport au train notamment. Et là, c'est vrai que c'était quelque chose déjà qui était dans le collimateur. Mais là, maintenant, on est avec un tel effondrement. Et là, on revient toujours à ces effets à long terme. Donc Air France, comme Airbus, quand Airbus est en train de dire on va licencier du monde. Je crois que c'était intéressant ce que disait la ministre, parce que la grande préoccupation pendant la période d'arrêt complet de l'économie, c'était de dire on doit garder notre capacité de production. Ce que disait Jean-Marc Daniel tout à l'heure, les usines ne sont pas détruites, il faut garder les gens dans les usines ou dans les sites de production de services, parce que quand ça va repartir, il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour que ça reparte. Quand vous êtes dans l'aéronautique aujourd'hui, vous voyez que vous avez d'une part un arrêt, quand vous disiez tout à l'heure sur le luxe, quand il va y avoir réouverture internationale, on n'est pas sûr du tout que ça arrive tout de suite. Et on voit bien que ça va prendre beaucoup de temps, que peut-être même on reviendra jamais dans des situations de transport, de tourisme comme on connaissait avant. Eh bien, les compagnies aériennes, les fabricants d'avions, voire même les fabricants d'aéroports se posent des questions aujourd'hui et disent, en fait, est-ce que le modèle n'a pas changé de manière très, très profonde, avec une accélération incroyable par le Covid, mais c'était quelque chose qui était déjà, effectivement, auparavant, on va dire, dans la perspective qu'on pouvait avoir. Depuis l'année dernière, on sent bien que les gens voyagent moins en avion. Mais là, évidemment, le Covid a accéléré les choses. Je crois vraiment que dans le changement de société économique, ce que l'on a vécu en 3 mois a été un incroyable accélérateur. Ça peut être un accélérateur incroyablement défavorable pour certains secteurs. Ce sera peut-être quelque chose d'incroyablement favorable. Vous avez évoqué tout à l'heure avec GAFA. L'augmentation de chiffre d'affaires d'Amazon qui a été publiée hier est phénoménale, est incroyable, justement parce que on a vu le monde entier est en train de changer son mode de fonctionnement.
Et on s'est aperçu avec ce Covid, c'est apparu de façon criante, c'est que nous, on ne les a pas, les GAFA.
Et bien sûr.
On a tous commandé sur Amazon.
C'est un vrai problème européen. Ça, c'est un problème européen. On est super bon dans la révolution industrielle du XXe siècle.
Apple vaut plus aujourd'hui que le CAC 40, que nos 40 champions. Entreprise qui en vaut plus que 40.
Amazon, qui a 26 ans, c'est-à-dire c'est rien du tout. Quoi. Ouais. Une entreprise très récente vaut 1300 milliards. Renault, dont on parlait tout à l'heure, vaut 5,5 milliards. Ouais. Vous vous rendez compte? Enfin, c'est quand on dit ces chiffres, probablement, téléspectateur, il peut répéter, là, 1300, 5,5. Mais c'est incroyable. Donc là, on est effectivement dans un changement d'époque.
Mais justement, Stéphanie Villers aussi, on s'aperçoit que la vedette, c'est plus du tout Renault dans l'automobile. Il y a 2 ans, on était très fiers. Numéro 1 mondial de l'automobile. Maintenant, la vedette, c'est Tesla, qui vaut en bourse 180 milliards, qui produit 10 fois moins de voitures, ou 100 fois moins que Renault.
Oui, c'est ça qui est assez dramatique, c'est que ça met...
On n'est pas là où il faut, voilà.
Oui, mais on n'était pas là déjà avant la crise. Mais la crise, en fait, met en exergue tous nos dysfonctionnements, en fait. On voit que, effectivement, le CAC 40, les entreprises du CAC 40 souffrent. Par contre, les entreprises du Nasdaq, aux États-Unis, tous les GAFAM,
la high-tech américaine.
On a vu, la crise sanitaire ne les a absolument pas impactées. On a continué à vivre grâce à leur offre et à leurs produits. Ensuite, quand même, sur même si on ne sait pas si les consommateurs vont se remettre à prendre le chemin du luxe, ce qui sont quand même nos fleurons, hein. Il faut voir que nos entreprises françaises du luxe se portent bien financièrement. Donc, elles vont avoir une chute des bénéfices, mais c'est un passage à vide. Pour autant, elles ont de la trésorerie, elles vont pouvoir passer cette étape-là. C'est une mauvaise nouvelle, ça sera une mauvaise année, mais
on va pas...
Voilà, elles vont, par rapport à d'autres entreprises qui étaient déjà en situation de déséquilibre financier.
Pascal est belle. C'est vrai qu'on a eu la bonne nouvelle aujourd'hui sur les ventes automobiles. 4% par rapport, de plus que l'an dernier. Alors c'est vrai, on l'a dit, il y a eu la prime à la conversion qui a très bien marché. On est en train de se dire, mais Renault n'est plus dans le coup. Est-ce qu'il y a toujours cet attachement quand même du consommateur français à soutenir nos entreprises?
Parce oui. que oui, voilà. Bien sûr. Donc c'est vraiment là, on a une montée de l'envie. Alors surtout de consommer, ce qui a plus progressé, c'est de consommer régional. Donc ça, c'est vraiment la proximité territoriale et on sent bien que les nouveaux schémas qui vont se mettre en place, c'est bien de raisonner région et de remettre sur les territoires la production.
Donc la fatigue vis-à-vis du Made in China, vous la constatez aussi?
Oui, tout à fait, mais ça fait depuis la crise de 2008 en fait que les consommateurs français réclament du régional et du Made in France. Et là, le Made in France, il a progressé de 4 points là en 6 mois quoi en fait. Hein. C'est-à-dire que cette crise-là, elle a révélé que finalement, si on est isolé, eh bien, on peut réussir à vivre. Il y a quand même une industrie qui s'en sort bien, c'est l'industrie agroalimentaire. On est quand même aussi un fleuron en export. Alors après l'aéronautique, on exporte de l'industrie agroalimentaire. Donc eux, ils s'en sortent plutôt bien. Et c'est vrai que sur ces secteurs-là, les Français ont une préférence made in France. Il y a des petites
quand on achète
start-up.
Une voiture, c'est important la nationalité?
Alors c'est vrai que sur la voiture, en effet, au moment où on a ouvert les frontières, PSA et Renault ont perdu en part de marché, mais on voit bien que c'est remonté justement depuis 2008, c'est-à-dire que cette préférence pour l'automobile française, pour ce qui va sauver l'emploi en fait, hein, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience qui est qu'en 2008, on l'a constaté, c'est que comme on veut que l'emploi reste sur le territoire français, on va acheter une voiture française ou on va acheter des produits qui sont le luxe français, mais aussi dans l'habillement. Il y a des start-up qui ont démarré, qui marchent super bien, qui font des jeans qui sont complètement fabriqués en France. Et donc ça c'est favorisé. Et le jouet se relocalise parce que depuis la crise de 2008, les Français préfèrent oui, des produits français.
Jean-Marc Daniel, un mot sur l'action du gouvernement qui a été salué par ses prêts. Il y a eu des prêts Air France, par exemple, on lui a prêté 7 milliards. Est-ce qu'il n'y a pas des effets pervers? C'est pour avoir une question. D'abord, il va falloir qu'Air France les rembourse, 7 milliards. Donc Air France, qui est déjà mal avant, on se demande comment ils vont les rembourser. Et puis deux, on a l'impression qu'il y a de l'argent magique maintenant. En fait, pendant très longtemps, on était là à faire voulait faire une conférence sur la retraite parce qu'il manquait 10 milliards en 2025. Et là, on vous annonce 500 milliards en 3 semaines.
Mais je crois qu'il y a le premier effet pervers. C'est-à-dire que les gens sont pris d'une espèce de tournis face à ces plans de relance qui se sont accumulés. Et donc, effectivement, les gens ont fait grève l'année dernière de façon assez sévère pour le régime de retraite. Et on leur disait, on ne peut pas faire autrement. Vous vous rendez compte, en 2025, il y aura 20 milliards de déficit. Alors, entre 13 et 20 milliards. Là, maintenant, on leur dit 500 milliards, 600 milliards, 700 milliards. Et de toute façon, rassurez-vous, la Banque centrale est là derrière avec son célèbre bazooka. Alors, vous faites des expressions. Alors,
j'en veux
du bazooka. Envoyez le bazooka, ouvrez le bazooka. Donc, plus personne ne comprend ce qu'il y a derrière tout ça. Ce qu'il y a de frappant, c'est que la population est inquiète de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on a parlé d'épargne. En réalité, les gens n'ont pas épargné pendant le confinement. Ils ne pouvaient pas dépenser. Donc, ce n'était pas de l'épargne. L'épargne, c'est quand vous avez un geste volontaire qui consiste à préparer l'avenir. Là, vous ne pouviez pas aller dans les magasins. Donc, effectivement, l'argent s'accumulait sur les comptes courants. Mais ce qu'on constate, c'est que les gens sont en situation d'inquiétude par rapport à toutes ces décisions. Et donc, ils se mettent effectivement à épargner. Et vous avez l'envolée du cours des objets qui, traditionnellement, incarnent la sécurité.
Ce que vous dites, c'est qu'il y a la peur du Covid, il y a la peur du chômage et il y a la peur de ces centaines de milliards qu'on dépense sans compter et dont on se dit qu'un jour ou l'autre, ça nous retombera dessus en impôts.
Voilà, il va falloir bien falloir solder tout ça. Et donc, vous avez le cours de l'or qui est la monnaie traditionnelle, historique, et qui est en train d'exploser. On va atteindre 2000 dollars l'once d'or, probablement d'ici à la fin du mois d'août. Je vous rappelle qu'il y a 50 ans, 1970, juste avant la rupture du système monétaire international, l'or valait 35 dollars l'once. On est à 2000 dollars l'once. Ouais. Vous imaginez la dégradation de la qualité de la monnaie qui est derrière ce chiffre. Et donc les gens commencent à paniquer. On le voit aussi dans le fait qu'il n'y a jamais eu autant de billets entre les mains des Français. La quantité de billets en circulation qui représentait environ 5%.
Et c'est ce qu'on appelle dans les salons savants les liquidités.
Les billets que détiennent les Français, qui représentaient 5% à peu près de notre production, représentent maintenant 10%. Et pourtant, malgré ça, les banques sont en train de dire à leurs clients, rapportez-nous des billets parce que nous allons en manquer. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On est en train de manquer de billets de 50 euros. Pourquoi? Parce que la population est en train de se faire des bas de laine de façon très, très primitive, en accumulant.
Donc, comme on avait en Grèce?
Comme on a vu en Grèce. Donc, il y a une forme d'inquiétude. Et le deuxième élément, c'est que par-delà ces sommes, je crois qu'il y a des incohérences qui frappent l'imagination. Moi, j'ai été frappé du fait, on parlait de l'automobile, c'est que simultanément, on a dit aux gens, si vous réparez votre vélo, on va vous donner 50 euros. On vous donne de l'argent pour acheter une automobile et puis on vous donne de l'argent pour aller à vélo. Il y a un moment où la population se dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on fasse du vélo ou qu'on achète une automobile? Air France, vous parliez d'Air France. On dit à Air France, vous sauvegardez l'emploi, mais vous arrêtez de desservir. Alors, on parlait de Lourdes, de Castres, mais c'est des destinations beaucoup plus importantes qui sont dans le collimateur.
Bordeaux, ouais.
Bordeaux, l'aéroport de Bordeaux, qui est un des aéroports les
et
plus
importants. Et c'est un Bordelais qui le dit.
Et c'est un Bordelais qui le dit, en présence de notre Bordelais.
Là, donc, c'est vrai.
Ce sont deux Bordelais qui se sont
directement
bah, oui. menacés par cette décision. Et encore une fois, alors...
Reconnaissez qu'il y a un TGV qui met 2 heures, donc ça peut quand même très bien se comprendre.
Oui, je comprends bien, mais on parlait de tendances antérieures. On a beaucoup fait référence à Greta Thunberg à un moment donné en disant effectivement il ne faut plus prendre l'avion. Donc on disait Air France, c'est une vision de long terme. Soudain, là, on s'abat sur Air France en disant on va vous donner 7 milliards, vous ne supprimez pas d'emplois, mais néanmoins vous fermez certaines lignes, mais vous essayez de vous redéployer. Il y a un discours contradictoire dans tout ça qui fait qu'effectivement on est passé à l'introduction de ce que j'appelle l'incertitude. Pour beaucoup de gens, y compris les gens qui prennent des décisions très microéconomiques, vous et moi, l'attitude du gouvernement et des politiques qui sont mises en place est incohérente. Et ça génère effectivement des mécanismes d'épargne, des mécanismes de retrait, des mécanismes d'angoisse.
Alors justement, cette épargne dont vous parliez, 75 milliards d'euros ont été accumulés par les Français pendant le confinement, avec la plupart des magasins et les restaurants fermés. Nous avons en effet très peu consommé ce printemps. Alors comment inciter maintenant les Français à dépenser une partie de ces économies et permettre ainsi à la croissance d'éviter une récession moins grave qu'annoncée? Élément de réponse avec Laura Rado, avec Barbara Steck et Diane Cacciarella.
Dans la largeur, non, on ne pourra pas. Dans la longueur, il n'y a pas de problème.
Donner des conseils, discuter et surtout vendre, c'est avec soulagement que ce commerçant accueille de nouveau sa clientèle depuis la réouverture.
Les habitués sont de retour, tout à fait, dès le déconfinement. Envie de se faire plaisir. La frustration qu'on a eue de ne pas savoir, de ne pas être libre, de ne pas bouger, voilà.
Les allées et venues des clientes ont donc repris, notamment grâce aux soldes. Mais l'angoisse de l'avenir ne s'est pas dissipée pour autant.
Moi, j'ai plus la crainte pour peut-être à la rentrée. Là, aujourd'hui, je pense qu'on est dans un optique alors, du déconfinement, lâche-à-plaisir. Voilà. Puis là, le beau temps. Dans le textile, ça joue tout le temps. Voilà. Après, oui, je reste avec des craintes sur la rentrée. La rentrée, tout le monde va reprendre son travail. Est-ce que tous les postes seront là au rendez-vous? Est-ce que le business sera encore là? Je ne sais pas. C'est encore une aventure, ça.
À l'image de l'activité de ce magasin, les chiffres de la consommation reprennent des couleurs. Après un effondrement au pic de la crise, les dépenses sont reparties en juin. Plus 2,3% par rapport à février, avant la crise. Une bonne nouvelle, alors que la France plonge dans une récession sans précédent. La chute est vertigineuse, moins 13,8% au deuxième trimestre. Alors pour espérer relancer l'économie, la confiance des Français doit être au rendez-vous. Des Français aujourd'hui assis sur un gros pactole. 75 milliards d'euros d'épargne accumulés depuis 3 mois. Une épargne forcée qui pourrait encore grossir.
C'est du jamais vu. D'abord l'épargne qui a augmenté, qui a quasi doublé. C'est-à-dire des taux d'épargne quasi chinois en fait, très très élevés. Alors évidemment, ça s'est réduit au moment du déconfinement. C'est-à-dire ce qu'on a vu, c'est que les ménages ont quand même se sont remis à consommer, par exemple des biens durables, des voitures, des frigidaires, des ceci et cela, mais n'ont pas dépensé toute l'épargne qu'ils avaient accumulée. Loin de là. Et donc, c'est un des enjeux de ce qui va se passer dans les mois qui viennent.
Les ménages vont-ils réinjecter leur argent dans l'économie? Rien n'est moins sûr, tant les incertitudes sur l'évolution de l'épidémie pèsent sur leur morale.
Ici, nous avons le 20 francs, effigie Coq Marianne. C'est la pièce la plus courante en France et la plus achetée.
Signe de cette inquiétude, l'évolution du cours de l'or. Un niveau record a été atteint fin juillet. Comme à chaque crise, le métal précieux confirme son statut de valeur refuge.
Alors depuis quelques semaines, voire quelques mois, il y a manifestement une augmentation de la demande. Le panier moyen a doublé. Et depuis le début du confinement, on observe non seulement un élargissement de la clientèle, mais également une augmentation des volumes de l'ordre de 4 à 5 fois.
Autre placement sûr et privilégié des Français, le livret A. Sa collecte a atteint des sommets, là encore, plus de 20 milliards depuis le début de l'année. C'est deux fois plus qu'en 2019. Des fonds que des députés de la majorité voudraient utiliser pour financer les entreprises.
Il faut faire travailler l'épargne, soit en l'activant et en donnant des forces aux entreprises, c'est-à-dire en investissement dans leur capital, dans leurs fonds propres, ce qui va leur permettre de se développer, d'investir, de recruter, soit plus directement en consommant une partie de cette épargne. La consommation, c'est le moteur de l'économie.
Pour encourager la consommation, le gouvernement doit dévoiler à la rentrée le détail de son plan de bataille aux Français. Une promesse leur a plusieurs fois été répétée pour les rassurer. Aucune hausse d'impôts n'est prévue à ce jour.
Alors, question téléspectateur, Pascal Hébel. La TVA peut-elle être un levier pour relancer la consommation? C'est ce qu'ont fait les Allemands, hein. Ils vont baisser la TVA de 19 à 16%.
Oui, c'est un bon levier parce qu'on sait que le prix, c'est ce qui joue. Et en ce moment, tout le monde parle que de ça. Tout le monde sait que ça va être l'enjeu de la rentrée. C'est de proposer des produits avec des prix moins chers. C'est vrai qu'il vaudrait mieux faire une TVA qui soit ajustée selon le type de produit. C'est qu'on peut imaginer que sur l'alimentaire, si on pouvait faire une TVA beaucoup plus faible que les 5% sur certains types de produits, on pourrait guider en fait l'alimentation des choix vers des produits français, par exemple. Parce qu'on sait bien que le grand enjeu aujourd'hui sur ce que voudraient faire les Français et ce qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est bien l'écart de prix entre le produit français et le produit qui vient d'ailleurs.
Quoi, Philippe de Sertine, est-ce que le gouvernement, il n'est pas un peu timide son plan de relance de la consommation aux États-Unis? Le gouvernement s'apprête à envoyer des chèques. Les Américains vont recevoir dans leur boîte aux lettres un chèque de 1 200 $. Alors ben ça, vous allez vous acheter une télé derrière.
Oui, alors déjà, du point de vue américain, il y a en ce moment un très, très, très gros débat au Congrès, justement. Hein, et ça bloque. Et ça bloque beaucoup.
Donc, c'est pas fait.
Donc, c'est pas si facile que ça. On va dire, le plan de relance américain, bon, il est vrai qu'ils sont en campagne électorale très, très dure. Donc, ce sera compliqué, sans doute, d'avoir des politiques très, 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 on va dire, extraordinaires d'ici le mois de novembre, si les élections ont bien lieu. En ce qui concerne la France, quand vous dites le gouvernement est peut-être un peu timide, c'est que le problème.
Non, mais il aide beaucoup les entreprises, mais assez peu le consommateur. Voilà, oui, c'est ce que je voulais dire.
Le problème, c'est nos finances publiques. C'est qu'effectivement, quoi qu'il en coûte, a dit le président, mais néanmoins, et rappelons-le du point de vue européen, sans cesse on l'a dit, oui mais attention, on était déjà dans une situation dégradée quand on dit utiliser la TVA, super, mais la TVA c'est la première ressource de l'État. Donc si vous baissez la TVA, c'est des ressources en moins. Déjà que ça ne va pas bien, là effectivement on peut dire oui mais de toute façon maintenant on s'en fiche des déficits, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'on doit bien se rendre compte qu'aujourd'hui nous sommes protégés parce que nous pouvons nous endetter en tant que pays membre de la zone euro, que depuis d'ailleurs plusieurs années, si on était membre de la zone franc uniquement, on aurait sans doute des très très gros problèmes. On aurait eu dévaluation de la monnaie, déséquilibre énorme de notre balance du commerce
extérieur. Et des taux d'intérêt bien plus élevés.
Et des taux d'intérêt qui explosent. On a une énorme protection qui est par l'euro, mais on a aussi cette obligation de ne pas faire n'importe quoi. Qui, répétons-le, de toute façon, si vous faites n'importe quoi et que vous êtes autonome, là vous allez être sanctionné. C'est-à-dire que la France l'a connu dans le passé, votre monnaie est dévaluée, vous payez votre pétrole beaucoup plus cher, toute l'économie s'arrête et vous êtes obligé à la fin de réduire vos dépenses publiques, on va dire, sous la pression du marché. Là, en l'occurrence, en ce qui concerne la France, on a la pression des autres Européens qui disent « Attention, il faut qu'on soit tous attentifs à ce que ne soit pas dans des équilibres tellement incroyables que la situation fasse que l'euro devienne quelque chose dont on se demanderait quelle est sa force. » Attention, les Américains que vous évoquiez dans la question, les Américains commencent à avoir un vrai souci sur le dollar. Depuis le début du mois de juillet, on voit que l'interrogation, on en avait parlé ici il y a quelques mois, ça y est, on commence à dire « Attention, on commence à avoir sur les marchés mondiaux une vraie défiance sur le dollar. »
Le dollar ça, n'est plus la valeur refuge.
Alors, faut pas exagérer.
Faut pas exagérer
parce qu'il n'y en a
pas
d'autre.
Mais on préfère l'or aussi.
Et l'euro remonte en ce moment. D'accord. Le plan de relance européen, le fait que justement les Européens disent on continue à fonctionner ensemble, fait qu'ils donnent confiance. Derrière tout ce qu'on dit là, en fait, il y a un mot-clé qui est la confiance. Et quand tout à l'heure on évoquait justement le fait que les consommateurs aujourd'hui hésitent à taper dans leur bas de laine, c'est qu'ils n'ont pas confiance. Dès qu'ils vont avoir confiance, la confiance, c'est l'élément dans l'économie qui est absolument central. Et c'est celui qui est le plus difficile à modéliser. Vous ne savez pas comment elle s'en va et vous ne savez pas comment elle revient. Vous savez simplement que c'est difficile.
Jean-Marc Daniel, mais c'est vrai que le gouvernement, pour revenir sur la question que je posais, donne l'impression d'aider beaucoup plus les entreprises que les consommateurs. Il faut que bien relancer la consommation pour réenclencher la machine économique.
Écoutez, oui, non, je serais plutôt réservé sur cette histoire que c'est la consommation qui est la clé du système. Parce que si vous augmentez la consommation, on a déjà un système, une situation de déséquilibre de notre commerce extérieur. Et en fait, vous augmentez à l'heure actuelle les importations. On le voit d'ailleurs le mois de mai, dès le déconfinement, nos comptes extérieurs qui étaient déjà détériorés se sont encore plus détériorés. En un mois, on a eu un déficit qui s'est creusé de 3 milliards d'euros. Donc, le véritable problème pour la France...
C'est-à-dire que la France ne peut pas être un pays qui ne fait que consommer et qui ne produit plus.
Voilà, il faut produire. Et le discours sur l'épargne, il ne faut pas oublier ce qu'on apprend en première année de Sciences Éco, c'est qu'il y a égalité entre l'épargne et l'investissement. Donc le véritable enjeu, c'est de convertir cette épargne, comme le disait un des députés de la majorité qu'on a vu dans le reportage, en des investissements qui sont des investissements
productifs. Ce n'est pas forcément
productifs.
De l'argent qui dort ou de l'argent bloqué,
non.
L'épargne.
Vous avez de l'argent qui est de l'argent en liquidité, qui est de l'argent qui est thésaurisé, de l'argent qui est dans des sortes d'impasses comme les gens qui achètent de l'or, c'est-à-dire vous achetez de l'or à quelqu'un qui vous vend de l'or, donc lui-même qui après va racheter de l'or parce qu'il s'est dit finalement j'ai eu tort de vendre. Donc il va... Bon, cet argent, lui, il va être un peu, je dirais, cornérisé par rapport à la réalité économique. Mais quand vous avez de l'argent qui est investi dans les entreprises, effectivement, c'est là qu'est l'avenir, c'est là qu'est la clé de l'avenir. Or, dans l'évolution des comptes nationaux, on a vu que la consommation a baissé, mais l'effondrement le plus spectaculaire, encore une fois, c'est l'investissement. Les entreprises, elles étaient fermées, elles ne pouvaient pas investir. Donc, il faut véritablement aider les entreprises. Et donc, aider les entreprises, vous avez l'outil fiscal. Donc, c'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire en disant « nous allons baisser les impôts de production. Ces impôts, on a vu Philippe Martin, là, qui est le responsable du Centre d'analyse économique dans le reportage, il avait fait un rapport l'année dernière très intéressant, montrant que ces impôts que doivent les entreprises avant même d'avoir été en situation de faire des bénéfices étaient très pénalisants. Et donc le gouvernement a annoncé qu'il allait faire un effort. 10 milliards, c'est pas à la hauteur de l'enjeu, c'est véritablement là...
20 milliards sur 2 ans. Oui, personne ne l'avait jamais fait avant.
Mais ils sont bien. Le deuxième élément sur la TVA... Les mesures qui avaient été annoncées de baisse de TVA les plus spectaculaires en 2008-2009 avaient été faites par le gouvernement britannique. Et ce qu'avait dit le gouvernement britannique à l'époque, le gouvernement Gordon Brown, c'était dire aux entreprises, gardez, ne baissez pas vos prix. Garder la différence, c'est-à-dire qu'on va faire par ce biais-là une forme de transfert qui est un transfert très simple, sur lequel personne ne va s'en apercevoir d'une certaine façon. On va transférer des impôts vers des ménages, vers les entreprises, sans que les ménages en subissent les conséquences immédiates, puisque eux, ils verront des prix qui restent stables. Et donc, l'enjeu sur la TVA, c'est pas forcément de baisser les prix en disant ça va attirer le consommateur, c'est autant de donner une sorte de marge de manœuvre nouvelle aux entreprises.
Stéphanie Villers, si le gouvernement a décidé d'aider énormément les entreprises, hein, avec on leur promet des baisses d'impôts, on les aide en faisant des prêts, on les autorise même à dire bah, « écoutez, si vous devez faire des restructurations et que c'est douloureux, faites-le, nous fermerons les yeux », c'est parce qu'il faut garder notre système productif. Je reviens sur cette expression qu'avait utilisée Bruno Le Maire en septembre dernier. Il avait dit que la France était menacée d'un déclassement productif. Ça veut dire quoi ?
En fait, il nous faut produire avant, pour vendre nos produits, pour avoir des consommateurs. Il faut bien avoir quelque chose à vendre pour pouvoir faire marcher la machine. Je veux rebondir juste sur l'or, parce que en fait, c'est au-delà de... Effectivement, il faut réinvestir. Il faut que les entreprises se mettent à investir davantage. Ensuite, je pense que le gouvernement n'a pas que soutenu les entreprises, parce que justement, il y a 75 milliards d'épargne supplémentaire pour les ménages. Donc, c'est bien qu'il y a eu ce soutien qui a permis aux ménages de mettre de côté. Ils n'ont pas désépargné.
Le chômage partiel. Obligés,
ben voilà, ils n'ont pas été obligés de désépargner. Ils ont pu mettre de côté cette période de chômage partiel. Et puis, ceux aussi qui ont continué à travailler, à obtenir les fonctionnaires et énormément de gens du secteur privé ont pu continuer à travailler et avoir leur salaire par le télétravail, notamment. Donc, ils ont mis cet argent de côté. Donc, on ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas aidé cet argent.
Les ménages se demandent s'ils ne vont pas avoir des hausses d'impôts.
Tout vient avec cette histoire de l'or, le prix de l'or qui augmente. Et là, c'est extrêmement inquiétant. Parce que, effectivement, l'argent magique pour le Kidam, on ne comprend pas. Vous avez tout à fait raison. Pourquoi tout d'un coup, on a énormément d'argent ? Mais les investisseurs, ceux qui investissent sur les marchés financiers, ils comprennent exactement la mécanique. Or, pourquoi ils achètent aujourd'hui de l'or ? Parce qu'ils se disent, les taux d'intérêt, vous avez vu, sont extrêmement faibles, donc il n'y a pas de rendement, on ne va pas se mettre là-dessus. Le marché des actions a explosé. Hein. On n'a jamais été atteint des niveaux aussi hauts, c'est-à-dire qu'on a dégringolé, et hop, ça y est, on est reparti, on est même retrouvé
des niveaux d'avant crise. C'est d'ailleurs assez incompréhensible, ça,
haut. Voilà, donc on sait bien qu'on est en récession, mais la bourse continue à augmenter. Bon, déjà, on voit bien qu'on est...
la sphère financière en train de se décorréler de l'économie réelle. Hein. Ensuite, l'immobilier. L'immobilier, lorsqu'on a une montée du chômage, on se doute bien que les gens vont pas, les banques vont se dire, bah, il y aura peut-être un problème pour financer ces ménages qui risquent d'être au chômage. Donc l'immobilier, c'est pas non plus un pôle où on peut s'attendre à du rendement, c'est plus risqué. Donc il nous reste plus qu'une seule chose, et même les investisseurs, donc les avertis, orientent leur liquidité vers ce métal précieux, c'est l'or. Donc ça adresse
un signe
très
que tout est dangereux.
Voilà, là,
la bourse est dangereuse, l'immobilier
moment, voilà.
On est au top.
Alors, c'est difficile aujourd'hui de dire bah, non, investissez dans les entreprises, puisque même les avertis, les investisseurs ne le font pas.
Oui. Non, il faut donc voir quand même, juste pour corriger quand même, les gens qui achètent de l'or à l'heure actuelle, il faut voir qui c'est. C'est des banques centrales. Et notamment la
banque. Face au risque géopolitique, alors.
Oui, absolument.
Au risque de Chine, de guerre.
Oui. C'est beaucoup de banques centrales, donc la Chine, l'Inde, la Russie, qui sont devenues des acheteurs nets très importants sur le marché de l'or. Et puis, effectivement, on l'a vu dans le reportage, des gens qui achètent des pièces de 20.
Pour se rassurer. Pour
il y a aussi des investisseurs. Hein, ça.
Oui, mais c'est le signe, quand même, qu'on est inquiet sur l'avenir.
Et encore une fois, il ne faut pas oublier que l'épargne, c'est quand même le moyen de financer l'investissement.
Alors, justement, parce qu'elle est belle. Parlons un peu de notre épargne. On épargne combien de nos revenus et comment épargne-t-on et c'est quoi ce chiffre de 17% hein, je crois.
Alors,
que
en moyenne, d'habitude, c'est 15%.
Ouais.
Mais là, on est passé à 19%.
Ah oui, d'accord.
Donc, on est beaucoup plus haut que la plupart des pays. Hein. On épargne beaucoup.
Parce qu'on est plus craintif que les autres.
Alors, il y a une partie là-dessus, mais c'est aussi parce que dans l'épargne, en fait, il y a deux choses. Il y a les placements dans l'immobilier. Quand vous empruntez pour acheter, et donc on est beaucoup plus propriétaire en France. Donc le taux d'épargne, il est élevé parce qu'on achète plus.
Si je rembourse mon emprunt immobilier, c'est considéré comme de l'épargne.
Donc c'est ça, c'est l'investissement pour le ménage, et donc c'est de l'épargne. Donc il y a cette grosse partie, et c'est pour ça qu'en France, on épargne beaucoup. Et puis le reste qui vont vers des placements financiers, les livrets A. Et c'est vrai que le livret A, il n'a jamais. On était à 7 milliards de mi en avril, 3 milliards, 4 milliards. Donc c'est énorme. Donc tout le monde le met sur le livret A, alors que ça a baissé la rentabilité de 0,5%. Ça ne rapporte rien. Mais c'est une façon de finalement de le mettre dans un endroit où on pourra le récupérer vite. Ce qui montre qu'en effet, on ne parie pas sur l'avenir et on ne le place pas beaucoup en bourse ou on achète quand même. C'est-à-dire que là, à la sortie du confinement, les gens qui rêvaient d'acheter des maisons, il y a quand même eu... les agences immobilières se portent bien.
Philippe de Sertine, donc les entreprises tournent au ralenti, les caisses de l'État sont vides. Il n'y a plus qu'une chose qui va bien, c'est l'épargne. C'est pas dangereux d'avoir... Enfin, est-ce qu'on ne va pas finir par la taxer, cette épargne, non
C'est la grande garantie qu'on a par rapport à la dette. Hein.
On va dire on nous prête, c'est parce qu'on sait que les Français ont de l'épargne, qu'on va pouvoir...
Ça, c'est sûr. Hein. C'est-à-dire que quand, dans les sommets internationaux, on va dire à la France, quand même, vos comptes ne sont pas terribles, toujours ce que mettent les Français en avant. Enfin, là, c'est dire, on a un niveau d'épargne, vous avez vu, qui est quand même très élevé. Alors, on va dire, tout le monde est rassuré. Les seuls qui ne doivent pas être totalement rassurés, évidemment, c'est les épargnants. Disons, on nous met beaucoup en avant quand même.
Ah ouais.
Bah oui, c'est évident que la France, qu'on disait...
Là, ce qui nous protège, c'est peut-être la perspective de l'élection présidentielle, non ?
Vous voulez dire par rapport à notre épargne ?
Oui,
oui, mais là, je suis en train de vous dire que la pression, effectivement, elle est de l'extérieur aussi. C'est-à-dire que oui, c'est la grande garantie française. Et quand vous êtes épargnant et que vous savez que vous êtes la garantie, vous êtes moyennement rassuré, parce que ça veut dire évidemment que vous pouvez être la première
vous
victime.
À venir.
C'est juste pour ajouter une chose, les comptes globaux de la France sont quand même déficitaires. Ouais. C'est-à-dire la dette publique est telle que malgré toute cette épargne, nous sommes emprunteurs nets sur les marchés internationaux. Et donc, comme le disait Philippe de Sertine, notre seule garantie à l'heure actuelle, c'est que derrière, c'est pas tellement l'épargnant français, c'est l'épargnant allemand et l'épargnant batave, l'épargnant néerlandais. Et on l'a vu au dernier sommet européen. Il commence à s'agacer. Il commence à trouver que garantir comme ça la situation financière de la France, ça devient un peu lourd.
Alors, l'autre secteur qui souffre beaucoup en ce moment, on le sait, c'est le secteur du tourisme. Cet été, 7 Français sur 10 ont néanmoins choisi de passer leurs vacances en France. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme qui sont pénalisés par l'absence de visiteurs étrangers. Mais en Bretagne, par exemple, on s'inquiète de l'apparition de plusieurs cas de Covid qui peuvent ruiner un début de saison qui se passait bien. Reportage en Bretagne d'Aubry Perrault et David Lemarchand.
Concarneau, son air frais et sa cité fortifiée. Au sud du Finistère, la ville bretonne entretient sa légende auprès de milliers de visiteurs chaque année. Et pourtant, en ce moment, il deviendrait presque facile de circuler dans ces rues étroites.
Vous avez choisi ?
Pas encore,
d'accord. J'ai du cidre.
Et même de déjeuner en terrasse sans réserver.
C'est pas l'influence des grands jours du tout. Là, c'est le mois de... l'équivalent d'un mois d'avril, début avril, le début de saison, où on tourne à deux. Et là, nous sommes quand même 2, 4, 5 personnes.
Des tables vides en plein été. Après un début de saison très prometteur, la reprise de l'épidémie en a dissuadé certains. Cette restauratrice accuse le coup.
Une complète andouille de guéméné ?
Moins 30% de fréquentation en quelques jours.
On y croyait tous. C'était bien, bien parti. Ça a bien démarré, au fait. Et malheureusement, donc avec 2-3 cas par-ci, par-là, on fait que les gens se sont désistés dans les réservations, etc. Donc c'est frustrant.
Des touristes inquiets après la publication mi-juillet du taux de reproduction du virus. La Bretagne affiche alors le taux le plus élevé de France. 10 personnes en contaminent 26. En quelques jours, le chiffre repasse en deçà de la moyenne nationale. Mais le mal est fait. La Bretagne, perçue jusque-là comme une zone épargnée, devient une zone à éviter.
Oui, ça peut faire peur. Je pense vraiment qu'il faut faire attention. Et on voit qu'en Bretagne, plus que justement, je vois en Normandie, les gens ont l'air de redoubler de vigilance.
C'était réservé depuis une paire de mois. On s'est dit, on vient, on verra bien. Non, puis bon, voilà, sinon on bouge plus.
Un virus trouble fête. Dans la ville close, le port du masque est devenu obligatoire. Une simple mesure de précaution, selon la directrice de l'Office du tourisme.
Dans une station de tourisme comme Concarneau, il est essentiel d'adopter en fait les gestes barrières. Et le port du masque en ville close en fait partie tout simplement. Ça reste de la prévention.
Difficile de rassurer les visiteurs, car ces derniers jours, la découverte d'un foyer de contamination dans le département voisin a semé le trouble. Un coup de projecteur sur Quiberon, alors que la ville a lancé une campagne de dépistage et décidé de fermer ses plages la nuit. Là encore, la municipalité le répète, les vacances continuent.
Notre grande plage est certainement une des plus belles grandes plages de France. Donc dans la journée, il n'y a vraiment aucun problème de distanciation. Ces mesures vont peut-être faire réfléchir quelques personnes, mais elles auront tort de réfléchir. Venez à Quiberon, rien ne change.
Un cri du cœur, alors que les annulations s'enchaînent, entre 10 et 20% dans les hébergements de la station balnéaire. Selon l'Agence régionale de santé, pourtant, il n'y aurait pas de lien entre tourisme et propagation du virus. Cet infectiologue aussi appelle à relativiser.
Donc est-ce que ce vent de panique en Bretagne, finalement, est justifié ?
Actuellement, il ne l'est pas. Et on voit bien que les chaînes de transmission sont connues, sont contrôlées. La Bretagne bénéficie d'une densité de population quand même relativement faible. Et donc, il est préférable de rester dans des régions de densité de population basse plutôt que d'aller se concentrer dans des villes. Il n'y a pas lieu actuellement de quitter la Bretagne.
Un message rassurant pour les professionnels du tourisme qui espèrent encore sauver leur saison. En Bretagne, le secteur a déjà perdu plus d'1 milliard d'euros de recettes cette année.
Alors, question téléspectateurs. Certaines régions françaises sont-elles plus fréquentées par les touristes que les années précédentes ? Pascal Hébel, est-ce qu'il y a des gagnants-perdants ?
Oui, alors le grand perdant, c'est la Corse. C'est-à-dire qu'ils ont une fréquentation qui a beaucoup baissé parce qu'en effet, prendre le bateau alors que les gens voudraient y aller en voiture et ils ont peur de ne pas pouvoir entrer. Et par contre, c'était la Bretagne et tout l'arc atlantique qui a vu une fréquentation plus haute en juillet. Et dans les réservations sur le mois d'août, c'est aussi bien parti. Donc en effet, il y a peut-être des annulations sur Quiberon parce qu'on a beaucoup parlé de cette ville-là. Mais globalement, ils ont plus de monde en fréquentation en juillet-août et ils espéraient rattraper un mois de juin où en général, ils n'ont pas beaucoup de monde. C'est vrai que finalement, comme l'Île-de-France, on est plus nombreux dans l'Île-de-France, les gens ont été plus près de chez eux aussi, en fait. Hein, c'est ce phénomène-là. Et n'ont pas voulu aller dans des endroits où habituellement, il y a beaucoup, beaucoup de monde, en fait.
Alors, hein, Paris est vide. Et la Côte d'Azur aussi, est-ce que ce sont, pour le
oui,
coup, là, des sûr, régions qui souffrent beaucoup de l'absence?
Oui, oui. Alors, ceux qui souffrent beaucoup d'absence, c'est les grandes villes. Ah oui. Qui avait des touristes.
Château de Versailles, on l'a pour ça tout
voilà,
seul.
Voilà, c'est
là,
ça. Hein. Donc, ou Marseille et Paris, qui en effet vont subir en fait le manque d'arrivée de touristes étrangers. Et la Côte d'Azur attirait beaucoup plus de touristes étrangers que la Bretagne, et donc c'est dans ces zones-là, et la Corse aussi, qui sont où il y a beaucoup moins de monde. Mais finalement, dans, par exemple, Airbnb annonce plus 70% de réservations que l'année dernière à la même époque. C'est-à-dire qu'en effet, ça s'est déplacé aussi sur le type de logement. On va chez des amis, dans des maisons où on est plutôt isolé et beaucoup moins dans l'hôtellerie.
Mais justement, Stéphanie Villers, on parlait tout à l'heure de ces secteurs qui doivent engager un tournant à l'occasion de ce coronavirus. On parlait là, il faut embrasser le tournant écologique. Est-ce qu'on on critiquait beaucoup le tourisme de masse ? Vous parliez d'Airbnb à Paris, on sait que la mairie de Paris veut interdire les Airbnb, les limiter énormément. Au fond, cette idée qu'on voulait 100 millions de touristes, est-ce que, en France, hein, on en est à 90 là, mais est-ce que c'est toujours un objectif ou on abandonne ce genre d'objectif maintenant ?
Économiquement, on en a quand même besoin. Hein. Ce serait quand même dommage de passer à côté de cette manne
qui vient en France. Mais tout le monde dit, on veut pas de Venise, on veut pas de Dubrovnik, on veut pas de surtourisme.
Oui, alors mais on en est loin aujourd'hui puisqu'il n'y a plus de touristes visiteurs étrangers, donc c'est une problématique qui n'est pas dans l'urgence. Enfin, c'est pas notre problème aujourd'hui. Hein. Le problème, c'est comment on va réussir à faire revenir ces visiteurs étrangers. Alors Dieu merci, le tourisme c'est quand même un secteur assez volatile et on a bien vu, il peut rapidement s'effondrer. On l'a vu au moment des attentats et puis alors tout d'un coup, voilà, la confiance est revenue et les étrangers reviennent. Donc c'est plutôt rassurant. Là, on passe une sale année, mais finalement, on a quand même évité le pire, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même un mois, on se demandait si la saison estivale allait rouvrir, si on allait nous-mêmes pouvoir partir en vacances. Donc, quand même, les deux tiers des touristes en France sont des Français. Donc on a conservé une capacité pour le secteur du tourisme qui a pu rouvrir. Le tourisme, c'est 2 millions d'emplois, donc c'est essentiel pour notre économie. Donc bon, on va pouvoir... C'est un secteur qui n'a pas réellement besoin de se remettre en cause, peut-être, pour, ben voilà, pour savoir que s'il y a de nouveaux virus qui arrivent... Oui, je pense.
Hein. Jean-Marc, cette année, il n'y a pas de touristes étrangers. Pour les comptes de la nation, pour les comptes extérieurs, comme on dit, c'est une manne qui se chiffre en milliards qu'on va perdre. Parce que vous disiez le déficit commercial, mais les comptes extérieurs vont être très dégradés du fait de tous ces touristes.
Ah oui, c'est un des postes essentiels de nos comptes extérieurs. Alors, sur les vacances d'été, on ne sait pas encore comment ça va se terminer. On sait déjà que la saison d'hiver, elle a été perdue. C'est-à-dire, je vous rappelle qu'on est confiné depuis le 15 mars. Et pour les stations de sport d'hiver, cette période-là était la période. Or, eux, ils le récupéreront pas. En revanche, là, on peut penser que l'été, et normalement, pourrait bien se terminer. La seule condition pour que ça se passe bien désormais, c'est qu'il n'y ait pas un discours, là aussi, qui soit un discours contradictoire. C'est-à-dire qu'il y a des bruits comme quoi on peut reconfiner, on peut éventuellement, non pas reconfiner de façon générale le pays, mais certaines régions, certaines zones.
Quand la Belgique dit, tiens, l'Île-de-France et les Pays de la Loire sont des zones oranges et invite ses concitoyens, en revenant de France, à se faire tester et à se mettre une quarantaine, une quatorzaine. Est-ce qu'on peut imaginer que derrière ça, il y a un agenda économique, la Belgique, se disant, allez, après tout, ça serait mieux que les Belges restent en Belgique pour dépenser leurs euros en Belgique plutôt qu'en France.
Je pense que ce n'est pas ce degré de duplicité, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui se disent que ce n'est pas inutile de faire redécouvrir un certain nombre de pays qu'ils ont tous un patrimoine. La Belgique a un patrimoine historique qui est assez important et que les Belges peuvent en bénéficier, même si le climat n'est pas aussi attractif que celui qu'on peut avoir au bord de la Méditerranée. Quant au discours sur Airbnb, je vous renvoie au discours du maire de Venise qui était très indigné parce que sa ville était en train de sombrer et qui maintenant n'arrête pas de dire un peu comme on l'a vu dans le
reportage.
Il a dit, écoutez, mais si vous pouviez revenir, c'est si beau, Venise, à l'automne, c'est très romantique.
Ça a quand même été ravagé par le tourisme, Jean-Marc Daniel. C'est pas un modèle, non ?
Si ? C'est pas un modèle. C'est-à-dire que Venise a été obligée de s'adapter. Je pense qu'il y a eu des excès sur Venise, comme il y a eu des excès sur certaines îles grecques, mais je pense qu'à l'heure actuelle, il regrette, par rapport à ces excès, il regrette de ne pas retrouver quand même une voie moyenne entre le désert que c'est à l'heure actuelle et cette période d'excès.
Philippe de Sertine.
Je crois vraiment, enfin, sur la Belgique a des gros problèmes de reconfinement, notamment autour de la région d'Anvers, là, en ce moment. Mais en ce qui concerne le tourisme français, là, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on l'a dit sur la grande ville, c'est Paris. Hein. Paris, c'est en fait une part gigantesque de tourisme. Et là, pour le coup, Paris est vraiment, vraiment extrêmement pénalisé. Il n'y a plus de touristes étrangers du tout. Et il y a finalement très peu de touristes français qui sont là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le gouvernement a décidé de prolonger les aides de chômage partiel pour le tourisme. Et quand on dit, en fait, c'est notamment pour tout toute la région parisienne. Là, c'est pareil. C'est-à-dire, il ne faut pas perdre notre force de production. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si jamais vous avez tous les restaurants qui ferment, tous les hôtels qui disparaissent à Paris...
ça reviendra au bombardement dont parlait Jean-Marc Daniel.
Exactement. Là, on se retrouve avec, un, les unités qui n'existent plus et les gens qui étaient dedans. Toujours pareil, vous voyez, c'est un savoir-faire. Le savoir-faire français dans le tourisme, c'est quelque chose aussi que les étrangers viennent chercher. Et donc, l'idée, c'est de le préserver en disant, on espère que ça va pouvoir repartir. Toujours pareil, par exemple, l'Asie, le Japon en ce moment va bien et montre, enfin va beaucoup moins mal que les autres, montre que oui, la croissance va revenir par l'Asie. Les Asiatiques, ce sont des touristes très importants pour nous. Il faudra un jour qu'ils reviennent si on veut notamment retrouver cet or français qu'est le tourisme. Je crois vraiment, on doit avoir conscience que perdre le tourisme extérieur pour la France, c'est une catastrophe pour l'économie française.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, question téléspectateur, le nombre de chômeurs est-il encore appelé à augmenter à la rentrée? Alors, Stéphanie Villers, il y a toujours du chômage partiel qui est toujours en cours, alors même si le dispositif a été un peu durci.
Ça reste que des prévisions hein, qui peuvent... C'est assez compliqué de faire actuellement des estimations. Alors, si on prend les estimations de l'OCDE pour être neutre, ils s'attendent à un taux de chômage qui pourrait monter aux alentours de 11-12%, sachant qu'on se rappelle quand même qu'en début d'année, on était passé sous moins 8. Sous 8, hein, sous je 8, sais pas pourquoi, sous 8% pardon, de la population active. Donc oui, il y aura une montée du taux de chômage. On estime à peu près entre 200 et 250 000 destructions d'emplois d'ici la fin 2021. Donc il y aura, effectivement, ça laissera des stigmates, cette crise, sur le marché de l'emploi. En particulier, là, de toute la problématique des jeunes, les 700 000 qui vont arriver, et qui risquent effectivement de gonfler les rangs de Pôle emploi.
Juste une remarque complémentaire sur les jeunes. Le gouvernement fait un plan, mais surtout, comme pratiquement tout le monde a été reçu au baccalauréat, un des problèmes, c'est que pour échapper au chômage, beaucoup vont s'inscrire en faculté. Ouais. Et donc, un des enjeux immédiats, ça va être l'accueil physique, l'engorgement des facultés.
A-t-on noté un retour de la consommation pendant les soldes? Pascal Hébel, ça fait plusieurs années qu'on dit que les soldes marchent de moins en moins bien. Est-ce que cette année, ça s'est encore vérifié?
Non, cette année, oui, ce n'était pas très bon parce que ça a été décalé de 15 jours parce qu'on a voulu sauver finalement le secteur de l'habillement en se disant on ne va pas baisser les prix au moment où les gens vont reconsommer. Mais en effet, attendre le 15 juillet, alors que c'est une période où une partie de ceux qui achètent, parce que tout le monde n'achète pas de l'habillement, et c'est ceux qui partent en vacances, il y a 60% de Français qui partent en vacances, et c'est ceux qui ont le pouvoir d'achat pour acheter de l'habillement. Donc
on a l'impression que les soldes, il y en a sans arrêt sur Internet, donc on se dit à quoi
bon... Oui, alors déjà les soldes, ils ont été tués par la période où on a autorisé les promotions plus, au moment où on a mis en place les soldes flottants qui n'ont pas marché, on a libéralisé en fait le fait de pouvoir baisser les prix, et donc les soldes, ils s'étiolent d'année en année.
Les soldes, hein, vous rappelez la différence avec une promotion, c'est qu'on peut vendre à perte, hein,
c'est ça ? Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc la période avait été allongée, puis elle a été raccourcie, comme quoi ça ne marchait pas bien.
La bourse est-elle impactée par les mauvais résultats des entreprises ? Alors, c'est ce que vous disiez, Stéphanie Villers,
En fait, jusqu'à présent, notamment les plans de relance, le plan de relance européen avait véritablement stimulé la bourse française et aussi les autres bourses européennes. Là, il y a quand même un doute, hein, parce que les entreprises viennent de publier leurs résultats semestriels et les marchés s'aperçoivent qu'il y a une réalité économique et que ces entreprises ont quand même trinqué. Hein,
elles ont 29 milliards de pertes, là, ils ont annoncé cette semaine, pour un CAC 40 qui affichait l'an dernier.
Mais il suffit d'une communication bien faite de la part des banques centrales et ça peut repartir hein, parce que derrière il y a quand même la volonté de maintenir le système financier stable hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'à la crise économique s'ajoute une crise financière.
D'accord. Les banques centrales disent je vais mettre de l'argent.
Je vais continuer.
Voilà, et donc cet argent il va se loger quelque part. Il se loge dans l'immobilier et il se loge dans la bourse, c'est ça ?
Voilà, c'est-à-dire au lieu de... En fait, les entreprises ont tendance, en fait, globalement, à s'endetter pour aller rémunérer leurs actionnaires. Voilà. Donc, finalement, les marchés sont très contents, hein, puisque c'est le win-win deal pour eux. Hein. Ils sont gagnants dans toutes ces mesures, la sphère financière, effectivement, une grande gagnante de cette crise encore.
La promesse de ne pas augmenter les impôts est-elle encore d'actualité ? Philippe de Sertine.
Bah, elle est d'actualité parce qu'on n'a pas dit qu'on allait les augmenter. En revanche, la question, à un moment donné, qui dira si on est dans une situation de déséquilibre trop fort, comment on fait ? Donc là, il y aura des questions qui vont se poser. On a déjà eu, on va dire quand même, premier type de réponse en France, c'est-à-dire le fait des baisses d'impôts. Et on a vu d'ailleurs un léger dysfonctionnement, on va dire...
Sur la taxe d'habitation pour le dernier tiers des Français, les 20%.
Donc si vous ne baissez pas les impôts prévus, vous les laissez. Est-ce que c'est une augmentation ? En tout cas, il n'y a pas de diminution. Ouais. Donc on a dit, oui, mais si... on va les diminuer quand même. Les collectivités locales, donc les mairies, régions, départements, qui vivent beaucoup justement de ce gros problème fiscal, ont beaucoup souffert aussi fiscalement du Covid. Donc là, de toute façon, on va être à un moment... Elles n'ont pas le droit d'avoir des budgets en déficit, elles. Ah, oui. Donc là, à un moment donné, d'une façon ou d'une autre. Alors évidemment, il y a mille et une façons d'avoir des rentrées d'argent pour l'État, y compris de ne pas l'appeler d'impôt. Hein, quand vous augmentez la CSG, on dit « Ah oui, mais ce n'est pas de la fiscalité. » Donc bon, mais je dirais ça revient quand même pratiquement aussi lourd que la TVA en termes de rentrée d'argent. Donc là, on aura probablement quand même ces questions de ponctionnement qui se poseront à un moment donné.
L'espoir de la découverte prochaine d'un vaccin peut-il faire repartir l'économie à la hausse, Pascal Hébel ?
Oui, alors déjà, ça a pu refaire remonter les valeurs en bourse des industries pharmaceutiques. On a même soupçonné d'avoir dit qu'il y aurait un vaccin pour que les cours de bourse réaugmentent. Donc, c'est sûr que les Français sont très anti-vaccins. On est le pays...
32% disent ne pas souhaiter se faire vacciner. Sondage YouGov pour UFPost.
Donc, il y a une méfiance qui est très forte. Hein, et c'est un peu ça qui fait que... on ne va pas forcément retrouver très vite une confiance vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de tout. D'ailleurs, le port du masque, si certains ne le portent pas, c'est parce qu'on n'a pas confiance dans les messages qui sont diffusés. Donc, le vaccin, oui, on espère que ça va un petit peu donner moins d'inquiétude à tout le monde, mais tout le monde ne se vaccinera pas. Donc, ce n'est pas forcément ça qui fera moins de...
Il n'y a pas que le vaccin, il y a le traitement. Ouais. Et sur le traitement, vous avez eu toutes les polémiques qu'il y a eu...
avec la chloroquine.
Avec le chloroquine.
On ne va pas rentrer là-dedans.
Avant que les gens aient une opinion stable, cohérente face à ce genre de situation, il restera un certain temps.
Combien d'années faudra-t-il à la France pour retrouver le niveau économique qui était le sien avant le Covid-19, Stéphanie Villers ? J'ai vu que l'Italie était retombée à son niveau de 1993 en PIB, en économie.
Non, l'Italie va très très mal. C'est vraiment... la crise sanitaire, c'est un accélérateur de tendance, en fait. Hein. C'est ça
qui est... L'Italie allait mal.
Voilà. Donc, ça va encore de plus en plus mal. Et là, il y a eu quand même cette solidarité européenne, puisque l'Italie va quand même récupérer 70 milliards de subventions. Ça va pouvoir aider. Autrement, globalement, on se dit qu'il va falloir attendre entre 18 et 24 mois. Par contre, s'il y a un vaccin, ça pourrait quand même redistribuer les cartes.
Quand vous disiez l'Italie allait mal, elle allait encore plus mal. En fait, ce plan de solidarité européenne, il permet justement d'essayer de maintenir cette zone euro ensemble, parce que sinon... c'était la fragmentation.
C'est un risque, effectivement, de divergence supplémentaire entre le nord et le sud.
Un plan de nationalisation des grandes entreprises est-il envisageable ? C'est un peu ce qu'on fait là. Il paraît que l'État va monter au capital d'Air France. Ça s'appelle quoi ?
Oui, ça s'appelle.
Renationalise en douce.
Il nationalise, il paye une partie des salaires. Donc d'une certaine façon, l'État gère indirectement une partie du secteur productif.
Voilà, mais il ne le fait pas par idéologie, il le fait parce que il faut bien mettre de l'argent dans les entreprises.
Il le fait puis de façon assez peu cohérente. C'est-à-dire effectivement, il intervient dans certaines, pas dans d'autres.
Bon, eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi et d'y avoir participé. Lundi, vous retrouverez Bruno Duvic pour C'est dans l'air. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur France 5.